Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30
avec Amandine Bégaud.
Et bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions, bien sûr, avec vous les auditeurs. Vous avez la parole, vous le savez, au 32-10, comme chaque jour, dès 13h à la une. Cette grève des personnels de la compagnie low cost Volotea et des gros retards à la clé. Certains passagers ont mis 24 heures pour faire un vol d'1h30. Dans ce journal également, la campagne présidentielle, J-2 avant le débat. Et puis en Ukraine, ces frappes qui reprennent à Lviv, à l'ouest du pays, au moins 7 morts ce matin. À 12h45, on se penchera sur les professions de foi d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen pour ce second tour. Elles sont en route, vous devriez d'ailleurs les recevoir dans les tout prochains jours. Alors, quelle différence avec celle du premier tour? Thomas Després a scruté tout ça. Et puis à 12h50, ces chiffres que RTL vous révélait ce matin, les entreprises victimes de plus en plus de cambriolages, plus 7% depuis le début de l'année, c'est l'une des conséquences de la flambée des prix des matières premières. Notre question du jour sur RTL.fr, allez-vous suivre le débat d'entre-deux-tours mercredi soir? C'est assez partagé, vous dites oui à 42%, non à 49%. La météo, c'est avec vous Céline Dacosta, bonjour.
Bonjour Amandine, bonjour à tous.
Ça se gâte un peu, oui. Retour des nuages par l'ouest.
Oui, c'était déjà pas mal couvert ce matin entre les côtes de la Manche et en descendant jusqu'en Aquitaine, ça va le rester cet après-midi, avec quand même quelques éclaircies, mais aussi des ondées en toute fin de journée sur la Bretagne, la Normandie, le Poitou, les Pyrénées. Pour la partie est du pays, c'est toujours ciel bleu et grand soleil. Côté température, ça reste printanier et bien souvent au-dessus des valeurs de saison. Comme à Perpignan, on attend 23 degrés. Normalement, la moyenne de saison, c'est 17 à cette époque de l'année. 20 degrés à Toulouse, Besançon, Paris, 19 à Bordeaux et Lille, 17 à Rennes, 16 à Biarritz, 15 à Brest et 13 pour la plus basse à Cherbourg.
Merci beaucoup Céline, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc la bonne galère des passagers d'un vol Nice-Luxembourg. Vendredi soir, tenez-vous bien, ils ont mis presque 24 heures pour arriver à destination. 24 heures contre 1h30 prévue au départ. Johanna fait ses études dans le sud de la France et espérait passer ce grand week-end avec ses parents qui vivent eux à Luxembourg.
Départ estimé normalement 19h35 le vendredi. À l'aéroport, on nous annonce déjà un retard d'1h15. On décale à 9h direction le Luxembourg. En vol, on apprend que l'aéroport du Luxembourg a fermé pour cause de couvre-feu, donc il ferme ses portes à 23h. Et nous faisons demi-tour direction Lyon, le seul aéroport qui nous autorise à atterrir. Et nous sommes repartis samedi matin à 10h30 de Lyon, direction le Luxembourg en bus. Et nous sommes arrivés à 18h30, donc soit presque 24h après l'heure de départ prévu, donc c'est hallucinant.
Le témoignage de Johanna au micro RTL de Yannick Collant. À l'origine de toute cette pagaille, la grève des personnels navigants de la compagnie espagnole Volotea, une compagnie low cost qui dessert de nombreuses villes d'Europe. Ils réclament des hausses de salaire mais aussi de meilleures conditions de travail. Alizée Bonnor est déléguée SNPNC-FO.
Qu'est-ce qui nous met en colère? Le manque de considération, le fait que, par exemple, nos plannings peuvent changer du jour au lendemain. Vous pouvez commencer, par exemple, à 5h du matin demain, et puis ils vont vous dire aujourd'hui, tu vas commencer à 14h et puis tu finiras à minuit. Donc, en fait, si vous avez des enfants ou si vous aviez un rendez-vous médical important l'après-midi que vous pensiez faire, non, parce que du coup, ils vous ont dit, demain, au lieu de bosser que le matin, tu bosseras toute l'après-midi et toute la soirée. Donc en termes de vie privée, c'est impossible d'avoir une vie privée. Ensuite, le salaire est quand même misérable, le SMIC. Eux, leur stratégie, c'est nous faire travailler le maximum pour le minimum. Voilà.
Réaction recueillie pour RTL par Éric Vanier. Ce mouvement de grève des personnels de Volotea doit durer jusqu'à ce soir. Le personnel menace de se remettre en grève le week-end prochain si nécessaire, si vous êtes concerné. Pensez donc à vous renseigner. La présidentielle à présent, dernière semaine de campagne. Le second tour, on le rappelle, c'est dimanche. Marine Le Pen est dans le Calvados à Saint-Pierre-en-Auge où elle est arrivée en tête au premier tour avec près de 35% des voix. Marie Mollet, vous êtes sur place pour RTL?
Oui, des maisons normandes, un croisement de rue. Et voilà la candidate du RN qui saute de sa voiture, accueillie façon rockstar face au bar PMU.
Marine, une photo, Marine.
Venez. Marine, tourne-toi.
Jamais j'aurais cru la voir là, franchement. C'est mon cadeau.
Les mains pleuvent sur la candidate, enfant juché sur les épaules des parents pour apercevoir le carré blond. Quelques militants d'Emmanuel Macron sont perchés au balcon pour crier « Macron président », mais leurs voix ont du mal à porter car la candidate du RN semble ici comme chez elle, un dernier bain de foule sur des terres archi favorables pour se donner du courage avant sa mise au vert consacrée à la préparation du débat pendant 2 jours où elle doit laver l'affront de 2017.
C'est une exigence démocratique. Il y a une confrontation d'idées. Nous n'avons pas du tout les mêmes idées qu'Emmanuel Macron. Nous n'avons pas du tout la même vision de la société. Donc c'est cela qui doit ressortir du débat. Donc j'espère que ce ne sera pas ce que j'entends depuis maintenant une semaine, c'est-à-dire une succession d'invectives, de fake news, d'outrances, comme j'ai encore entendu ce matin dans la bouche de M. Attal.
Pas d'outrance, cette fois-ci une règle qu'elle a visiblement choisi de s'appliquer en changeant de pied à une semaine du premier tour sur l'interdiction du port du voile. Ce n'est plus une priorité, elle l'a redit ce matin, un renoncement pour tenter encore de rassurer.
Marie Mollet en direct de Saint-Pierre-en-Auge dans le Calvados pour RTL. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Ce déplacement par Marine Le Pen, Marie le disait à l'instant, a priori c'est le dernier avant le débat prévu mercredi après-demain soir, dernier aussi avant sa mise au vert.
2 jours au calme dans l'ouest de la France pour recharger les batteries, potasser ses fiches et s'entraîner à débattre avec un faux Emmanuel Macron. Voilà le programme. Et puis c'est aussi une manière de raconter une autre histoire, de montrer qu'en 2017, si elle s'est effondrée, c'est parce qu'elle était épuisée, nerveusement et physiquement. Cette fois-ci, vous venez de l'entendre et Marie vient de le dire, elle veut prouver qu'elle a un projet crédible et surtout rassurant, on insiste là-dessus, rassurant pour convaincre tous ceux qui la craignent encore.
Et du côté d'Emmanuel Macron ?
Alors, déplacement demain en Ile-de-France, puis Conseil des ministres mercredi pour le débat. Pas d'arrogance, pas de mépris pour son adversaire et explication du programme avec des mots simples. C'est un défi pour Emmanuel Macron. Voilà les conseils que le président a sur son bureau. Il n'aime pas, lui, les faux débats. Son truc, c'est de réunir ses proches et de piocher des idées ici ou là. Je vais vous raconter une anecdote qui illustre ça. Le soir du premier tour, une réunion stratégique a eu lieu en petit comité. Certains lui conseillaient de partir tout de suite faire un déplacement avec des travailleurs de nuit. D'autres d'aller à Rungis au petit matin. Emmanuel Macron s'est levé pour mettre fin à la réunion. Vous ne me ferez pas faire un truc que je n'ai pas envie de faire.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Et en ce lundi de Pâques, c'est l'évêque de Nanterre qui était ce matin sur RTL, l'invité d'Alba Ventura. Pas de consigne de vote, mais Monseigneur Rouget attend des réponses sur la fin de vie notamment.
Comment avoir lutté pendant 2 ans avec la crise sanitaire pour sauver des vies et passer ensuite à une légalisation de l'euthanasie ? Ce serait incompréhensible. Moi, j'attends des propositions de l'ensemble des candidats à la présidentielle et aux législatives pour pallier au désert palliatif qui existe dans notre pays. Il y a 26 départements français où n'existe aucun service de soins palliatifs. C'est quelque chose sur lequel nous attendons, dans notre attention à la dignité de toute personne humaine, une véritable ouverture. À charge ensuite pour chaque citoyen, catholique ou non, de voter en conscience.
Bonjour Odile Pouget. 26 départements qui n'ont pas de service de soins palliatifs, c'est vrai ça ?
Absolument. En Eure-et-Loire, par exemple, dans le Jura, dans l'Allier ou encore dans le Cher, il n'existe aucune structure pourtant essentielle à l'accompagnement des personnes en fin de vie. Cela signifie qu'en France, un hôpital sur 4 ne dispose pas d'unité de soins palliatifs. Chaque année, on estime que 320 000 personnes auraient besoin de cette prise en charge. 100 000 seulement y ont accès. Depuis 20 ans, il y a eu certes beaucoup de progrès, mais le nombre de lits, il y en a 7500 aujourd'hui, demeure insuffisant. En septembre dernier, le gouvernement a promis un budget renforcé, une meilleure formation des médecins, un renfort des équipes mobiles qui se rendent au domicile des malades. La promesse, c'est que justement, il n'y ait plus un seul département sans soins palliatifs en 2024.
Et cette question de la fin de vie, elle est présente, Odile, dans les programmes des deux candidats ?
Oui, même si le sujet n'occupe que quelques lignes. Pour trancher le débat, euthanasie, suicide assisté, Emmanuel Macron propose de mettre en place une convention citoyenne pour, dit-il, avancer de manière apaisée. Pour Marine Le Pen, il ne faut pas aller plus loin que la loi Claeys-Leonetti, mais qu'il faut en revanche des moyens accrus pour les soins palliatifs, mais cela reste tout de même très vague.
Merci beaucoup Odile Pouget pour ces explications. ajoute qu'une semaine après son appel lancé après l'échec du premier tour, Valérie Pécresse annonçait avoir récolté 1,4 million d'euros. Il lui en faut, on le rappelle, 7 pour boucler le financement de sa campagne. On en vient à la situation en Ukraine. Avec cette nouvelle offensive sur l'Ouest, pour la première fois depuis le 26 mars, la ville de Lviv a été la cible de bombardements. 5 puissantes frappes et au moins 7 morts, Émilie Bojard.
Oui, la ville avait été relativement épargnée depuis le début de la guerre. C'est aussi la grande ville la plus éloignée des frontières russes. Mais ces frappes, ce matin, rappellent aux Ukrainiens que personne n'est à l'abri de l'aviation russe. 5 missiles ont touché plusieurs cibles aux abords de la ville. On ne sait pas encore s'il s'agit de cibles civiles ou militaires. Tout ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est que certains missiles sont tombés près des voies ferrées. Les passagers ont été mis en sécurité et la circulation des trains a pu reprendre. Par ailleurs, dans l'est du pays, le gouvernement ukrainien annonce qu'aucun couloir humanitaire ne pourra être mis en place aujourd'hui, notamment autour de Marioupol. Les négociations avec les Russes étant longues et complexes, a fait savoir la vice-première ministre ukrainienne.
Émilie Bojard du service étranger de RTL. Le foot et le PSG a fait un pas de plus hier soir vers un 10e titre en Ligue 1 après sa victoire 2-1 face à l'OM. Les Marseillais très remontés après 2 buts refusé. Bonjour Christian Olivier.
Bonjour.
Une fois encore, c'est la VAR, la vidéo qui pose problème.
C'est un débat sans fin pour ou contre l'assistance vidéo, censée réduire les injustices. Un constat, depuis sa mise en place, elle n'évite pas les polémiques. Avant, elles existaient, mais on parlait d'erreurs humaines. Maintenant, elles continuent d'exister, mais on se réfugie derrière l'interprétation de l'arbitre après visionnage. Hier soir, deux exemples, sans l'avoir pénalisé Marseille. 85e minute, Saliba pour 2 cm de son numérus droit, signalé hors-jeu sans qu'on sache vraiment si le départ du ballon a été donné dans le 100e de seconde, car ça aussi c'est la règle qu'on a tendance à oublier. Et dès la 45e minute, c'est surtout l'action la plus litigieuse, le ballon pleine vitesse percute la cuisse, puis involontairement le coude du Marseillais Rongier. L'arbitre Le Texier ne bronche pas avant d'être sollicité par la cellule visionnage et de revenir sur sa décision. Après le match, en écoutant Pablo Longoria, président de l'OM, et Thierry Henry, consultant Prime Vidéo, on n'avait pas l'impression d'y voir plus clair.
On peut parler de pénalty, on peut parler de football. Je crois qu'on doit protéger le football. Ça, c'est pas des football.
Quand j'ai parlé de savoir qui prenait cette décision dans le van et l'image qu'ils ont, je ne sais pas s'ils ont cette image-là de la cuisse d'abord et ça va sur la main. Donc, je ne sais pas. Après, l'arbitre, s'il a cette image, c'est difficile de dire qu'il n'y a pas main. S'il a l'autre, c'est un autre débat.
Précision Amandine, le van dont parle Thierry Henry, l'assistance vidéo, elle n'est plus installée dans un camion derrière le stade, mais rue des Archives à Paris. Ah. Et le ballon qui touche la cuisse avant la main, peu importe, le règlement change toutes les 2 minutes. Il faut que l'intention soit délibérée pour siffler pénalty. Bref, prochaine polémique, ce sera dans On fait le match samedi 18h30 sur RTL.
Avec vous bien sûr Christian. Christian Olivier, chef du service des sports de RTL, vous avez, je vois, profité du beau temps, vous avez bonne mine. Hein, vous en avez profité ce week-end.
C'est ma mine habituelle.
Ah bon, d'accord, très bien. Bon,
en toute
cas,
modestie, bien
mais
sûr.
Oui, grand beau temps encore, vous l'avez entendu, sur les deux tiers est du pays pour aujourd'hui. On va retrouver Serge Pillot dans le massif de la Chartreuse. Bonjour Serge.
Bonjour.
Beaucoup en profitent pour prendre un grand bol d'air.
Ah oui, Amandine, fermez les yeux, imaginez une forêt de sapins, les montagnes, le soleil, le ciel bleu et le chant des oiseaux.
C'est beau.
Voilà, j'ai rencontré sur un sentier Camille avec son sac à dos et ses bâtons de marche.
Madame, alors une petite promenade avec le beau temps ?
Ça fait plaisir, hein. Ouais, il fait beau, on a un grand soleil. Il fait un petit peu frais, mais c'est juste ce qu'il faut pour randonner. Ça vaut franchement le coup.
Le paysage est magnifique.
Ah oui, ouais, c'est assez haut, c'est très très beau. Donc, autour, on a le massif du Vercors. Et puis de l'autre côté, vous avez Belledonne. Avec de la neige toujours, ouais, tout en haut. Ouais. C'est très beau, c'est tout enneigé, c'est tout blanc.
Mathilde et Mathieu, un jeune couple du Sapé en Chartreuse, se promènent avec leur petite fille, Lucie, 15 mois.
On n'a plus besoin de couvrir les bébés, on peut marcher tranquille, cueillir des fleurs. C'est très sympa.
C'est le bonheur, ouais. Sortez dehors et profitez.
On a eu de la neige il y a 2 semaines, donc ça fait un grand changement là, par rapport à il y a 2 semaines.
Là, c'est quasiment presque l'été.
Exactement, c'est l'été. Lunettes de soleil et crème solaire. Il faut en profiter.
Voilà Amandine, on vous attend avec la crème solaire.
Bah bougez pas, j'arrive. Serge Pillot en direct du Sapé en Chartreuse. Je risque d'arriver un peu tard en revanche, mais vous me gardez un peu de soleil.
Merci.
12h43 sur RTL, on marque une toute petite pause dans un instant. On se penche sur ces nouvelles professions de foi des candidats, J-6 avant le second tour, et elles ne devraient pas tarder à arriver chez vous. À tout de suite sur RTL.
RTL Midi avec Amandine Bégaud. RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Présidentielle 2022.
J-6.
Six jours avant le second tour et les nouvelles professions de foi des candidats ne devraient donc plus tarder à arriver dans vos boîtes à lettres. Elles sont en train d'être mises sous pli, mais déjà consultables sur Internet. Bonjour Thomas Després.
Bonjour Amandine.
Vous les avez passées en revue et surtout vous les avez comparées avec celles du premier tour. Qu'est-ce qui change ?
Eh bien c'est simple, presque tout. Les photos ne sont plus les mêmes. Chez Marine Le Pen, on a carrément changé le slogan de l'affiche. Et alors à l'intérieur, côté texte, les deux candidats ont parfois passé un petit coup de gomme et repris la plume.
Alors on va voir ça dans le détail. Les photos d'abord Thomas, c'est la première chose qu'on voit bien sûr lorsqu'on ouvre l'enveloppe et sur ce point-là, les deux candidats ont changé.
Et souvenez-vous, au premier tour, Marine Le Pen et Emmanuel Macron avaient choisi des photos gros plan face à l'appareil photo accompagné de leur slogan « Nous tous pour Emmanuel Macron, femme d'État pour Marine Le Pen ». Cette fois-ci, il y a un peu de changement. Chez Emmanuel Macron, on a gardé le même slogan « Nous tous », mais cette fois-ci, le candidat est en situation au contact, comme dit son équipe, au milieu des Français. C'était lors de sa campagne du premier tour en Bretagne, micro à la main. On le voit répondre aux questions, manière de le montrer aussi proche du peuple, à portée d'engueulade. C'est d'ailleurs souvent ce qu'on a reproché à sa campagne, de ne pas avoir vraiment fait campagne. Alors quant à Marine Le Pen, c'est complètement différent. Là aussi, la mise en scène est soignée, mais elle est assise sur un bureau, façon présidente, comme le portrait officiel d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, la comparaison est assumée dans l'équipe de Marine Le Pen. Et côté slogan, là aussi, il y a du changement. Fini la femme d'État du premier tour, cette fois-ci, pour tous les Français, c'est plus rassembleur. Ça fait référence d'ailleurs au slogan d'Emmanuel Macron, nous tous, écrit en italique en bas de la photo. En revanche, aucune référence au RN ou bien à son nom, Marine Le Pen, ni Marine, ni Le Pen.
Alors ça Thomas, c'était pour la photo. À l'intérieur, on imagine qu'il y a aussi du changement côté Marine Le Pen d'abord.
Oui, au premier tour, la candidate avait fait une longue liste de ses propositions. C'était très dense. Eh bien, pour le second tour, c'est très clair. L'objectif, c'est de montrer qu'élue présidente, elle a déjà organisé la première année de son quinquennat, montré qu'elle est en capacité de gouverner d'ailleurs. Elle le met en image. Il y a une longue frise chronologique qui va du 24 avril 2022, si elle était élue, jusqu'au mois de juin 2023. L'objectif, c'est de montrer qu'elle a tout préparé, son premier déplacement à Bruxelles, son référendum pour stopper l'immigration, l'instauration du référendum d'initiative citoyenne et même un projet de loi contre la maltraitance animale. Voilà, montrer que Marine Le Pen est prête à gouverner parce qu'on sait, dans les études d'opinion, c'est souvent le point négatif. Les Français ne croient pas que Marine Le Pen est prête à diriger.
Autre nouveauté de ce tract du second tour, elle attaque directement Emmanuel Macron sur son bilan.
Oui, c'est simple, dans la version du premier tour, Marine Le Pen n'a pas cité Emmanuel Macron une seule fois. Zéro, nada. Au second tour, elle le fait 4 fois. 5 ans avec Emmanuel Macron. C'est trop, stop ou encore. Alors, aucune référence à l'émission d'RTL. Hein. L'objectif, c'est vraiment d'instaurer le match avec le président sortant et de lutter aussi contre l'abstention, parce que l'abstention, c'était le risque du premier tour pour Marine Le Pen. Ça l'est encore au second. 2 fois, elle écrit « S'abstenir de voter, c'est réélire Emmanuel Macron ».
Bon, et on imagine qu'Emmanuel Macron, dans sa profession de foi, n'épargne pas non plus Marine Le Pen.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire, même si il ne la cite pas directement. Quand on cherche Marine Le Pen ou Front National ou extrême droite, il n'y a pas rien du tout. Mais en réalité, entre les lignes, il n'arrête pas de parler d'elle. Il y a même toute une page où il l'attaque. Le titre, la page 3, la France unie. Alors ça vous rappelle peut-être le slogan de François Mitterrand en 88. Et bien, sur cette page, il fait toute une comparaison entre son programme et celui de sa concurrente. Je vous en ai souligné quelques-uns. Un président qui a l'expérience et sait faire face aux crises plutôt qu'une candidate qui ne fait pas confiance au vaccin, un président qui croit en l'Europe plutôt qu'une candidate qui voudrait en sortir. Je vais pas vous faire la liste de toutes. Il l'aligne pas. En tout, il y a 7 points où il se différencie de Marine Le Pen.
Et côté programme alors ?
Alors très clairement, cette profession de foi reflète toutes les petites inflexions d'Emmanuel Macron dans cette campagne d'entre-deux tours. Vous vous souvenez du rétropédalage sur les retraites ?
Oui.
Eh bien, dans son document du premier tour, il parlait d'un report de l'âge légal à 65 ans, sans condition. Eh bien, cette fois-ci, on parle d'un décalage progressif. Et surtout, la campagne d'Emmanuel Macron insiste sur une retraite minimale à 1100 euros. Autre changement notable, au premier tour, Emmanuel Macron était écologiste, mais pas trop. Le mot avait été cité qu'une seule fois. Et bien là, c'est 3 fois plus, une manière aussi de s'adresser directement à l'électorat de gauche dont il a besoin au second tour. Un électorat d'ailleurs auquel il s'adresse dès la première page, dès les premiers mots, dans une petite lettre qu'il écrit. Un électorat, beaucoup d'entre vous n'ont pas voté pour moi, dit-il. Certains ont voté pour des candidats communistes, insoumis, socialiste, écologiste et de droite républicaine. Il fait une longue liste et de citer le général de Gaulle, je vous ai compris.
Ces professions de foi, elles arrivent, Thomas, avant samedi, hein, c'est ça ?
Avant samedi, 24 heures avant le scrutin, elles doivent être dans vos boîtes aux lettres. Alors ça peut prendre un peu de temps. On sait qu'au premier tour, tous n'ont pas reçu leur profession de foi dans leur boîte aux lettres.
Merci beaucoup, Thomas. 12h50 sur RTL. Vous restez avec nous dans un tout petit instant. Ces vols contre les entreprises, les chefs d'entreprise et les entreprises d'ailleurs, de plus en plus victimes de cambriolage, mais aussi de vols en toujours plus 7% au mois de janvier et février. RTL vous le révélait ce matin. On vous décrypte et on vous explique tout ça dans un instant. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi avec Amandine Bégaud.
Mon camion était stationné dans une rue à sens unique. Je suis monté chez mon client 15 minutes après, tout avait disparu. L'outillage et le matériau, 10 000 euros, j'avais perdu. Ça fait mal au dos, c'est démoralisant et c'est horrible.
10 000 euros perdus, volés comme ça en quelques minutes, des histoires comme sexy, il en existe des dizaines, peut-être même plus. Les entreprises sont en effet de plus en plus victimes de vols, plus 7% en janvier et février par rapport au même mois de 2021. RTL vous le révélait ce matin. Bonjour Anaïs Bouisseau.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé cette enquête pour RTL. Alors cette hausse, c'est la conséquence directe finalement de la hausse des prix des matières premières et aucun secteur n'est épargné.
Oui, on a compilé les déclarations de cambriolage des entreprises, les vols sur les chantiers, chez les agriculteurs et même dans les commerces, les vols à l'étalage déclarés auprès de la police et de la gendarmerie. Si on additionne toutes ces déclarations, cela donne rien qu'entre janvier et février 350 vols d'entreprises par jour. Vous avez entendu tel mot, un professionnel du BTP qui s'est fait voler 10 000 euros de matériel en 15 minutes. Les engins de chantier peuvent aussi être volés, les exploitations agricoles pour tout ce qui est métallique, parce que ça coûte cher.
Est-ce qu'on peut dire que le phénomène de ce début d'année, c'est le vol de carburant ?
Oui, sur un camion, vous pouvez siphonner 400 à 500 litres de carburant. Ça vous fait vite fait bien fait entre 800 et 1000 euros de matière.
Énorme.
Quand même, vu le prix du litre de carburant. Pas plus tard que cette nuit, la gendarmerie de l'Aisne, dans les Hauts-de-France, a été appelée et a retrouvé un véhicule avec tout le matériel pour pomper en douce le carburant des camions du coin. Dans ce département, en ce moment, les gendarmes reçoivent 2 à 3 appels par semaine.
C'est énorme. Les pots catalytiques, eux aussi, ont la cote en ce moment.
Oui, plus 6% de vols d'après l'observatoire Coyote Sécure. Les pots catalytiques, vous les trouvez sous les véhicules et ils sont composés de métaux, donc ils sont aussi très prisés des voleurs. Un pot catalytique, vous le revendrez entre 500 et 1000 euros sur le marché noir, donc c'est pas rien. Ces vols concernent les particuliers et les voitures, ça, on en parle, on en a déjà parlé sur RTL, mais c'est aussi malheureusement un marché très juteux quand on parle des pots catalytiques, des camions d'entreprise. Christophe fait partie d'une blanchisserie à Limoges où 8 camions sur 15 ont été vandalisés le week-end dernier.
Ça représente quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça peut aller de 1000 à 1500 euros rien que les pots catalytiques, plus le coût d'immobilisation, les dépannages parce qu'on a été obligé en fait de louer des véhicules pour se dépanner. Donc voilà, ça engendre quand même des frais pour la société qui ne sont pas anodins.
Vous entendez un volet, un matériau, une marchandise, c'est à la fois le manque à gagner
bien sûr
immédiat du vol, mais il faut aussi
exactement
racheter le matériel, parfois réparer les locaux ou les véhicules, continuer d'approvisionner les clients comme si de rien n'était. Et en plus, il faut passer du temps, donc de l'argent, à porter plainte en allant voir la police ou la gendarmerie. Donc en fait, c'est l'enfer.
La gendarmerie qui donne d'ailleurs quelques conseils pour prévenir.
Oui, pour éviter les cambriolages, si vous êtes un chef d'entreprise, vous pouvez appeler votre gendarmerie locale en amont. Un référent viendra vous voir pour vous donner des conseils de sécurité. Ensuite, il y a quelques astuces, quelques trucs à respecter quand même. Quand vous faites le plein du véhicule professionnel, débrouillez-vous pour plutôt faire ce plein le matin, juste avant de partir, et pas la veille. Comme ça, si vous vous faites siphonner pendant la nuit, vous n'y perdrez pas grand-chose. Pareil, les promotions, vous savez, sur les camionnettes, le petit logo, le numéro de téléphone, c'est important pour les artisans. Mais quand vous garez votre véhicule dans la rue, c'est à double tranchant, vous êtes facilement repéré. Donc, préférez plutôt les parkings, soit éclairés, soit sécurisés, soit les deux. Enfin, il y a un réflexe à avoir pour tous les auditeurs, comme vous et moi. Si vous voyez un comportement bizarre à proximité d'une entreprise, d'un entrepôt, d'un camion, vous appelez le 17. Vous sauverez peut-être ainsi la cargaison d'un professionnel.
Et les commerçants sont aussi concernés. Anaïs, 3 sur 4 disent avoir fait l'objet de vol ou d'une tentative de vol au cours des dernières semaines. Ça paraît énorme.
Oui, les vols à l'étalage, c'est le fléau des entreprises du commerce, comme l'explique Xavier Doué, représentant des petites et moyennes entreprises.
L'augmentation des prix, forcément, entraîne une augmentation des vols. C'est quelqu'un qui s'approche d'une pile de pulls dans un magasin textile et qui en prend un et le met dans un sac prévu pour ne pas sonner à un portique. Une boîte de conserve, un paquet de pâtes, une boîte de sauce tomate, tout ce qui est en accès libre, entre guillemets, dans le magasin.
Et les commerces se plaignent du manque de réponse pénale au vol à l'étalage.
Alors justement, qu'est-ce que peuvent faire les chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui ont été victimes ?
Mais déjà, vous portez plainte au plus vite. Dans l'idéal, si vous avez une caméra de surveillance, vous aurez peut-être des indices supplémentaires. Ensuite, contactez votre assurance et croisez les doigts pour qu'elle soit coopérative.
Ah. Les assurances, des fois, c'est un peu compliqué de se faire rembourser. Il faut que tout rentre dans les cases et des fois, ce n'est pas le cas.
L'assurance m'ont dit, ceci n'est pas compris.
Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Ceci ne fait pas partie des options proposées. Comme cela s'est produit à l'intérieur du véhicule, normalement ça aurait dû être l'assurance du véhicule qui aurait dû le prendre en charge. Ils se rejettent la balle entre eux.
Et pourtant, d'après le comparateur Assureland.com, les prix des assurances sont amenés à augmenter car les vols en entreprise sont désormais le deuxième plus gros risque des professionnels, derrière les dégâts des eaux, mais loin devant les départs de feu.
Merci beaucoup Anaïs. Et si justement vous êtes commerçant, chef d'entreprise et que vous avez constaté comme ça autour de vous cette hausse des vols, n'hésitez pas à nous appeler, vous avez la parole dans 3 petites minutes, 32-10, à tout de suite sur RTL. RTL.